Émission On en jase, votre émission d'actualité d'opinion sur l'heure du midi à l'antenne de Boulevard 102, animée par Jeff Fortin avec Mathias Turcotte pour jusqu'au 24 août. Par la suite, Denis Gravel suit 14h à 18h avec Audrey et Véro. Puis on commence ça le matin avec Marceau le matin. Il nous parle le soir aussi à 18h, puis le matin de 6h à 10h. Et ne manquez pas le point de max avec Max Larouche. Météo, je vous le rappelle, il y a des risques d'averses et d'orages aujourd'hui. C'est 24 degrés. Demain, 22 degrés, 60% de possibilité d'averses également en après-midi. Vendredi, samedi, ensoleillé, 23 et 24 degrés. À la circulation, Mathias?
Oui, Laurentienne, direction nord, d'accès depuis Louis XIV, qui est présentement partiellement entravé en raison d'une panne. Vous mentionnez en même temps 20 directions ouest entre Taniata, président Kennedy, bien sûr, c'est très difficile. Guillaume Couture, hauteur chemin du fleuve, en direction ouest, c'est très difficile aussi. Henri IV, direction sud, à hauteur de Charest, un peu d'attente. Et même chose pour Charest, direction est. Pour prendre Robert Bourassa, c'est au rouge. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Je vous rappelle, en revenant au bureau, blvd.fm, c'est notre web radio. Si vous êtes en télétravail à la maison, vous dites à votre haut-parleur intelligent, écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. À Boulevard 102, on est une radio locale et on est fiers de l'être. Et comme on est une radio locale avec des artisans de Québec, avec des propriétaires qui viennent de Québec, c'est-à-dire la belle famille Leclerc, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on traite des sujets en priorité de notre capitale nationale. Et c'est le temps de faire le tour de trois sujets, c'est-à-dire Pont-de-Québec, sécurité routière et Saint-Roch et itinérance, avec le candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau. Il a été justement député de Taschereau lors des quatre dernières années, Étienne Grandmont. Monsieur Grandmont, merci pour votre disponibilité aujourd'hui.
Ça fait plaisir, merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Étienne Grandmont, vous êtes un coureur, je vous ai vu au demi-marathon de Lévis. Vous êtes aussi un cycliste, puis là, ben, comme tous les cyclistes, quand vous passez sur le pont de Québec, vous dites « aïe, 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 coudonc, je vais-tu tomber dans le fleuve? »
Oui, je suis aussi un automobiliste, là, je tiens à rassurer tout le monde. Je n'ai pas là des transports actifs.
Vous le faites bien.
Utilisateur d'autobus aussi. J'utilise tout le temps le meilleur moyen de transport là, à ma disposition pour faire mes déplacements. Mais cela dit, oui, cycliste récréatif notamment aussi. Puis oui, je passe par le pont de Québec. Une des belles randonnées que je fais à Québec, là, c'est à traverser par le traversier. Je m'en vais à Lévis, je fais le parcours de Lens, reviens par le pont puis par le boulevard Champlain. C'est magnifique, mais il y a un moment où on n'aime pas être sur son vélo, c'est effectivement sur le pont de Québec. C'est désagréable, c'est inconfortable. On n'est pas capable de se doubler sans mettre le pied à terre. C'est vraiment pas une infrastructure de transport, en fait, cyclable, digne de ce nom-là.
Qu'est-ce qu'on devrait faire avec le pont de Québec? Est-ce qu'on devrait, comme on est en train de l'étudier, abaisser le tablier pour agrandir cette piste cyclable-là sans nécessairement vraiment perdre de voie de circulation?
Exactement, c'est ce qu'on propose nous chez Québec solidaire. Puis il y a une opportunité qui est devant nous, puis vous l'avez nommé, c'est que le gouvernement du Québec, qui est locataire du passage pour les voitures et donc propriétaire aussi du tablier, donc la surface sur laquelle les voitures roulent. On se rappelle que le pont appartient au fédéral, là, mais le Québec possède cette surface-là. Le tablier là, donc sur lequel les voitures roulent, doit être refait. Le gouvernement du Québec, le ministère des Transports, a fait une première proposition à la Société des ponts qui gère en fait le pont de Québec. Trop lourd, pas adapté à la structure du pont de Québec. Mm-hmm. Surtout, il le refaisait à l'identique, donc il ne l'abaissait pas.
Okay.
Et ce qui pourrait être fait, effectivement, c'est de l'abaisser. Puis voyez un peu la charpente du pont de Québec quand on passe dessus. Là, il y a comme des poutres qui sont en diagonale. Alors, vous comprenez que si on abaisse le pont, on s'en va vers la base d'un triangle qui est plus large et donc ça donne de l'espace supplémentaire et pour les voitures et pour les cyclistes, mais aussi, ça c'est important de le rappeler, si on abaisse le pont, c'est que ça permettrait de faire passer des véhicules plus hauts, donc des camions qui actuellement ne peuvent pas passer sur le pont de Québec et aussi éventuellement des véhicules de transport collectif de plus gros gabarit comme un SRB ou un tramway. Donc c'est aussi la clé de voûte pour être capable de faire une très bonne liaison de transport collectif entre Québec et Lévis.
Est-ce qu'on connaît les coûts qui seraient reliés à ce projet?
Je les connais pas. Ça n'a pas été rendu public encore. Par contre, ce qui est important de se rappeler, c'est que si on le fait bien, on se donne un 50 ans avant de le refaire, 50 ans,
okay,
où on pourrait justement faire passer donc davantage, plus de confort pour les cyclistes, mais aussi du transport collectif de plus gros gabarit. Alors qu'au contraire, si on maintient le tablier à la même hauteur, si on ne l'abaisse pas, on vient de geler ça pour les 50 prochaines années. Mais c'est pas des petits travaux, là. Donc, on a une opportunité. Et ce que j'ai compris de la première ministre actuelle, Christine Fréchette, pendant sa course à la direction de son parti contre Bernard Drinville, elle s'était engagée à abaisser le tablier du pont. Et ce que j'ai appris, moi, c'est que les ingénieurs du MTQ qui travaillent sur les scénarios de tablier du pont ne se sentent pas liés à cette promesse-là et donc ne travailleraient pas là-dessus en ce moment. Okay. Donc, on est en train de perdre du temps et peut-être de perdre une opportunité historique.
Donc, de ce qu'on comprend, la première ministre l'a promis, mais n'a pas donné la directive au ministère des Transports ou du moins aux fonctionnaires de celui-ci de travailler sur cette possibilité-là.
Ben, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job d'envoyer le message puis de forcer les ingénieurs puis les gens qui travaillent là-dessus à travailler là-dessus. Là. Fait que le message s'est pas rendu visiblement. Selon les informations que j'ai. Après ça, peut-être que ça s'est fait depuis, mais moi, c'est pas l'info que j'ai.
Ben, ce matin, dans Marceau le matin, on en a parlé justement avec Benoît Charrette, le ministère des Transports. L'entrevue est disponible sur blvd.fm, ministère des Transports et également de la mobilité durable. Puis ce qu'il nous a dit, c'est que c'est resté dans une zone grise, je vous dirais, à savoir
exactement.
Si c'est étudié ou non. Donc, on va faire notre travail aussi parce que, tu sais, moi, je suis pour la logique. Puis, ce serait logique de l'abaisser si c'est faisable, parce qu'on répond au transport actif, on vient pas justement piéter sur une voie de circulation pour le transport automobile, puis on peut permettre le transport lourd et le transport en commun. Fait que moi, pour moi, il y a juste du positif à le faire.
Là. Exact. Après ça, il y a un enjeu, c'est évidemment, on abaisse le tablier du pont, ben là, il faut l'enlever au complet pour en refaire un plus bas, alors que s'il reste en même hauteur, on peut faire ça voie par voie. Mm-hmm. Donc, à court terme, ça peut avoir un impact plus grand sur la circulation. Mais est-ce qu'on va se priver de cette opportunité-là pour les 50 prochaines années, alors que ça pourrait occasionner un problème de circulation à très court terme, puis sur pas trop longtemps, une couple de semaines, alors que il y a d'autres options pour se déplacer intérêt. Puis en plus, on a le télétravail, puis on peut faire ça pendant l'été. Il y a plein d'autres options, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, comme vous dites, là, moi, je pense qu'il faut être logique puis agir dans le sens de l'intérêt commun, là.
J'adore nos auditeurs qui réagissent toujours très fortement à nos entrevues ou nos discussions. Puis il y en a plusieurs qui parlent de l'intégralité de la structure. Est-ce que, dans ce que vous savez, ça serait difficile pour la structure d'avoir un tablier plus bas?
Non, ça changerait rien. Apparemment, là, ce qu'on me dit, moi, c'est que ça serait correct pour le supporter. En fait, l'important, c'est d'avoir une structure qui est assez légère pour respecter les contraintes, pas les contraintes, mais les forces, la résistance là, du pont de Québec. Puis évidemment, ce pont-là, même si on sait que bon, il y a des éléments qui sont rouillés, mais il est encore très solide, encore faut-il bien l'entretenir. Ça, on va continuer à mettre de la pression, évidemment, sur le fédéral. Mais au moins, il appartient plus au CN. Fait qu'au moins, on peut faire une pression politique, alors que le CN, c'était plus difficile de faire.
Pour
l'améliorer. Là, on sait, là.
Quelle organisation qui n'avance pas que le Canadien national, ça n'a aucun sens. Quand vous parlez de structure plus légère, ça veut dire qu'on ne le ferait pas en asphalte, le tablier qu'on abaisse?
Ben, il y a toujours une couche d'asphalte, mais c'est la structure en dessous de l'asphalte qu'il faut qu'il soit de la bonne matière, puis de la bonne composition, puis de la bonne structure.
De même, on avait parlé d'aluminium, si je me trompe.
J'ai parlé avec un chercheur aussi qui me parlait d'acier orthotrope.
Okay.
Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Chose certaine, c'est que la structure qui avait été proposée par le MTQ, c'est-à-dire juste une espèce de dalle de béton, ça, c'est trop lourd. Ça ne fonctionne pas. Une dalle de béton armé, là, ça ne fonctionne pas. C'est pas le genre de technologie. Et ça, c'est vraiment trop lourd.
Autre dossier qui vous concerne, c'est le boulevard Champlain. Oui. Ça circule vite. Ça circule vite avec les camions. Moi, c'est un endroit où j'adore aller me promener également. J'adore aller courir. Je le constate à chaque fois que je me retrouve là. Puis surtout dans le tronçon, là, moi, j'aime bien là, justement courir dans le petit Champlain puis après ça, m'en aller vers les escaliers du Cap-Blanc. Puis je me rends compte que dans le petit quartier, ça roule vite en crime à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation? Est-ce que ça appartient à la ville de légiférer ou c'est le gouvernement qui peut s'en mêler également?
Bien, c'est sûr que on est sur une route qui appartient au gouvernement du Québec, mais qui a donné une responsabilité de gestion à la ville de Québec. Donc, évidemment, c'est multipalier, là, c'est multigouvernement pour la responsabilité en termes de sécurité routière. Moi, j'étais très content là, que le comité de citoyens du Vieux puis le conseil de quartier du Vieux-Québec m'interpelle sur cet enjeu-là. Il y a des citoyens qui m'en parlaient aussi, donc on a voulu vraiment intervenir. Vous savez, cette section-là là, qui est la petite partie habitée dans le fond passé, là, la partie un peu plus touristique là, de Québec. Là. Et donc, cette partie-là, dans le fond, est habitée. Puis c'est la seule partie qui n'a pas été refaite depuis...
Avec les travaux de réaménagement.
La promenade de Champlain, Samuel de Champlain. Donc ça n'avait pas été refait. Puis c'est resté à l'identique. Donc c'est comme une espèce de reliquat de l'ancien boulevard Champlain qu'on avait.
En effet.
Et puis, effectivement, c'est fait large. Le champ de vision est très, très large. Puis, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui circulent à une très, très grande vitesse. Les maisons qui sont sur la rue Champlain, mais qui donnent sur la partie boulevard Champlain, ben c'est leur cours. Puis, il y a beaucoup d'accidents, de sorties de route. Puis les voitures atterrissent, là, vous irez voir là, dans les différents articles qui ont été générés par le point de presse qu'on a fait hier, là, les voitures atterrissent, finissent leur course directement dans la cour des gens. Les gens ont peur pour leurs enfants, ça n'a pas de bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, éventuellement, à long terme, il va falloir penser à refaire le boulevard, donc compléter ce qu'on a fait du côté de la promenade Samuel de Champlain qui a été améliorée. Mais là, on va faire ça quand les infrastructures souterraines seront à changer. On fait pas ça pour le plaisir. On fait ça quand il y a des travaux majeurs à faire de facto. Mais à court terme, ce qu'on peut faire, c'est un radar photo. Ça, ça a un impact.
Ah, c'est clair. Là,
sur Dufresne-Montmorency, à la sortie de François de Laval, il y a la grande courbe dangereuse. Là. Il y avait eu des gens qui étaient décédés. Nous, on avait fait, moi puis mon collègue, une seule année ici, on avait invité deux jeunes qui avaient été accidentés, emboutis parce qu'ils attendaient au feu rouge pour tourner à gauche sur François de Laval. Ils s'en étaient sortis, mais avec des séquelles physiques quand même importantes. Et ça avait donné l'installation d'un feu, pas d'un feu, mais d'un radar photo que maintenant la plupart des gens respectent. On lève le pied et on descend à 70 km/h, c'est moins dangereux.
Je passe là régulièrement pour vivre maintenant dans le secteur de Beauport et c'est fou comment le comportement a changé en raison du radar photo. Puis les radars photo, moi je le dis toujours, lorsqu'ils sont placés dans un coin, c'est vraiment, mais vraiment axé sur la sécurité. Exact. Ça ne devient pas des trappes à tickets. Non, ça change le comportement. Je le vis 3-4 fois par semaine avec François de Laval. Donc oui, un radar photo, c'est justement Marie-Ève qui nous écrivait, elle disait « Ouais, ça prendrait plus de policiers. Radar photo, ça serait parfait. » Faut qu'on se calme
photo,
en zone résidentielle.
Les policiers ne peuvent pas toujours être là. T'sais, on ne peut pas leur demander d'être 24 à cet endroit-là. Un radar, il va toujours rester nuit, jour, tempête, beau temps, mauvais temps. Il va toujours être là. Après ça, ultimement, ce qu'on veut, et c'est la même chose pour Dufresne-Montmorency, c'est une reconfiguration. Dans le cas de Dufresne-Montmorency, c'est une transformation en boulevard urbain pour toutes sortes de raisons, l'accès au fleuve notamment. Mais pour Champlain, c'est un peu la même chose. Mais à court terme, on peut agir, on peut sauver des vies. Donc, agissons, tu sais. Là, actuellement, en 2024, j'avais réussi à convaincre la ministre des Transports de l'époque, Mme Guilbeault, d'adopter un nouveau projet de loi pour dépoussiérer le code de sécurité routière. Là, il y avait beaucoup de demandes pour la sécurité routière autour des écoles, rappelez-vous.
Oui.
Puis elle avait promis 250 nouveaux radars, alors qu'il y en a seulement 66 actuellement au Québec. Donc, il y en a moins de 100, il y en a une cinquantaine au Québec. Donc, sur les 250, là, en mai dernier, le ministère des Transports a promis de déployer 66 nouveaux radars dans les deux prochaines années. Donc, on est loin de 250, au moins c'est 66 de plus. Donc, il faut absolument qu'un de ces 66 radars-là atterrisse sur le boulevard Champlain parce qu'on en a une problématique de sécurité routière importante. Puis des gens qui ont peur. Fait que réglons ça au plus vite.
Une vraie de vraie dans la région de Québec. Je peux pas croire que l'autoroute Dufresne et l'autoroute Laurentienne n'ont pas été transformées encore en boulevard urbain.
On va travailler là-dessus.
Hey, c'est des projets qu'on parle depuis 20-25 ans. Ah, exact. L'immobilisme de nos gouvernements. Je vais terminer la conversation avec vous, M. Grandmont, en parlant de Saint-Roch et d'itinérance. Encore des commerçants qui quittent le secteur de Saint-Roch. C'est quoi les trois actions prioritaires pour vous là, pour qu'on puisse revitaliser Saint-Roch? Parce que là, à l'heure actuelle, on va se le dire, on est dans une courbe très descendante.
Bien, d'abord, juste dire sur les commerces, oui, c'est dur de faire du commerce. Alors, des fois, il y en a certains qui vivent plus difficilement à la proximité avec les personnes qui sont en situation d'itinérante. Puis je peux le comprendre, c'est un peu des fois intimidant pour certaines personnes.
Bon, vraiment.
On apprend à comprendre un peu les raisons qui sont derrière, on comprend. Puis évidemment, je suis un homme, puis c'est pas la même réalité pour tout le monde non plus. Je suis grand, je fais 6 pieds. Bon, c'est pas la même réalité pour tout le monde, ça j'en suis très, très conscient. Mais il faut dire aussi qu'il y a des commerces qui quittent parce que le commerce au détail, c'est quand même difficile. Beaucoup de gens qui achètent en ligne, puis qui vont moins physiquement dans les commerces aussi. Là. Je pense que Amazon fait très mal au commerce aussi. Mais bon, cela étant dit, je suis bien conscient que c'est une réalité qui est un enjeu, en fait, là, dans Saint-Roch. Et il y a beaucoup d'organismes qui travaillent là-dessus. Alors nous, ce qu'on propose chez Québec solidaire, on veut donner un vrai coup de barre. Parce que là, actuellement, l'itinérance qu'on a dans Saint-Roch, mais qu'on a aussi partout au Québec, là. Vous avez mis l'accent sur Saint-Roch, mais...
Ah, c'est une crise provinciale, là. Il y en a dans le nord de Montréal, il y en a dans les Laurentides. Ah oui.
Il y en a dans le bas du fleuve, il y en a partout maintenant, là.
Oui.
Et d'ailleurs, je m'étonne de ne pas avoir vu le gouvernement de la CAQ qui disait qu'il était un gouvernement des régions s'investir plus sur la question de l'itinérance. de nommer une personne responsable clairement de ce dossier-là. Et c'est ce qu'on propose, nous. On propose de créer un super ministre de l'itinérance parce que nous avons une crise humanitaire devant nous autres. Et on doit avoir un répondant dont c'est la principale job. Il se lève le matin et puis il dit « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le sort de ces milliers de personnes, de ces au moins 12 000 personnes qui dorment dans la rue, qui sont en situation d'itinérance. » Une personne qui aurait pour mandat de coordonner l'action interministérielle, qui aurait des vrais budgets pour le faire, à la fois pour aider les organismes communautaires, à la fois aussi pour lever du logement, pour être capable de les loger, c'est-à-dire du logement à loyer modique, mais aussi avec des ressources à l'intérieur de ces logements-là pour les accompagner à reprendre un peu de contrôle sur leur vie. Puis qu'il y aurait aussi pour mandat de gérer une enveloppe unique, un guichet unique vers lequel les organismes communautaires puis tous les acteurs qui sont impliqués sur l'enjeu d'itinérance pourraient se tourner pour faire des demandes. Parce qu'actuellement, là, les demandes de subventions liées à l'itinérance, c'est un paquet de ministères différents et ça ne fait pas de sens.
Il n'y a pas de cohérence. Puis là, j'imagine qu'on doit toujours, falloir réinventer un nouveau projet alors que le besoin est là, là.
Exact. Puis là, ça fait que les organismes, quand ils ont des enveloppes, des subventions à demander à un paquet de ministères, bien, ils sont tout le temps pognés pour faire de la reddition de comptes puis des demandes de subventions pour plein d'organismes, pour plein de ministères différents. Fait qu'ils passent plus de temps à faire de l'administratif qu'à être sur le terrain.
Parlez-moi-en, j'ai été directeur du service financier du Patro Charlebourg durant 5 ans. C'est un poste que le Patro Charlebourg avait créé parce qu'il y avait trop de paperasse.
Exact.
L'organisme a été
oublié. L'organisme aussi, là. Juste faire d'administratif, là,
C'est ça. On est là pour prendre soin du monde sur le terrain, mais on est pogné dans les papiers. C'est comme pour les PME. Ouais. Monsieur Étienne Grandmont, candidat dans Taschereau, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une excellente campagne électorale. Je sais que ça va être une campagne très serrée entre vous et le PQ à l'heure actuelle. Pour plaisir de se reparler durant cette campagne.
Merci, puis au plaisir.
Salut. Merci. Bonjour. Étienne Grandmont, candidat pour la circonscription de Taschereau pour Québec solidaire. Il a été député là durant 4 ans. C'est-tu quoi? On vient de parler avec quelqu'un de Québec solidaire, puis je pense que c'est la force de Boulevard, c'est d'être capable de s'entendre avec tout le monde. Puis maudit que j'ai trouvé qu'il y avait des belles solutions concrètes.
Ben au moins des solutions.
Ben oui.
Déjà là, c'est t'sais, pas pire.
Pont de Québec, on l'abaisse, on a un matériel qui permet justement que la structure, ben que l'abaissement soit pas trop lourd pour la structure actuelle. Puis on vient de faire un beau 3 en 1. Transport actif, transport automobile, transport en commun.
Mais tu te rends-tu compte à quel point on rit de nos gueules? Excuse-moi de dire comme ça.
Mais t'as raison.
Mais la première ministre fait des promesses, elle arrive au pouvoir, puis elle donne pas la consigne aux fonctionnaires du ministère des Transports à œuvrer pour que sa promesse soit mise en œuvre.
Fait que là, voyons donc, t'as parlé dans le vide.
Ben, c'est une promesse en l'air.
C'est ça. C'est une
on n'avait jamais prévu
de réaliser. Puis après ça, on se demande pourquoi qu'on est cynique. Ouais. Après ça, boulevard Champlain, ben, radar photo en attendant qu'on fasse des travaux. Ça fonctionne à d'autres endroits où, justement, la sécurité est en péril. Son exemple de François de Laval est excellent. Je passe là 3-4 fois par semaine. Je trouve que c'est très concret aussi, le plan en itinérance. Donc, j'ai aimé parler avec M. Grandmont. C'était du concret.
Ben, Québec solidaire, c'est comme ça qu'ils doivent se démarquer en prenant des sujets qui touchent le monde pour de vrai, puis en les développant comme ça.
Ouais. Vois-tu le commentaire qui vient de rentrer par texto? Pour un gars de QS, il est vraiment bon. Non, mais c'est vrai, honnêtement, je dis souvent que moi, je vote pour un député, peu importe le parti. Puis sais-tu quoi? Étienne Grandmont va peut-être gagner dans Taschereau, malgré que Québec solidaire va manger une volée, à l'exception de 2-3 comtés à Montréal, parce qu'il est bien implanté dans son milieu, puis parce que quand il parle comme ça, ben, il y a des solutions concrètes. Il vient vraiment de m'impressionner dans cette entrevue-là. Vous, comment vous avez trouvé Étienne Grandmont dans l'entrevue? 418-971-1021. Puis laisse-moi te dire que quand on parle du pont de Québec, des ponts à Québec, et que ça réagit par texto.
Ah, ça rentre toujours.
Ça rentre tout le temps. C'est un enjeu majeur, la mobilité dans la région de Québec. On fait une courte pause, puis Mathias, j'ai le goût qu'on finisse de façon un petit peu plus léger ou humoristique avec nos auditeurs. Puis là, je vais sûrement mal le dire, là, parce que j'ai toujours de la misère avec ce mot-là, mais le phénomène de la réduflation.
Oui. Ouais. Oui, tu as bien dit.
On l'a vu, c'est dans le journal avec une barre Mars de 1991.
Et puis une barre Mars, ma foi, énorme.
C'est ça. Vous, là, c'est quoi, là? Vous pouvez commencer à nous texter au 418-971-1021, là. C'est où à l'épicerie que vous dites « Tabarouette, la réduflation vient donc bien de me frapper dans la face. » Moi, j'ai un exemple concret donné que un produit que je consomme à chaque jour, que je me rends compte à quel point il est vraiment victime de la réduflexion.
Commence à diminuer.
Yes! On en parle après la pause à l'émission d'Angers à Boulevard 101.